Bonjour à tous. Donc nous allons reprendre effectivement cette table ronde sur le avec pour thème projet TIC Santé, conduite du changement et l'innovation organisationnelle avec l'éthique. Et donc nous avons autour de cette table Patrick Olivier, donc, qui est directeur de la stratégie de l'ARS Île-de-France, qui se présentera très rapidement tout à l'heure et puis qui nous présentera son travail au travers de la notion d'innovation et de changement dans le milieu de la santé. Le docteur Michel Abrias, donc, qui est gériatre, médecin conseil au Conseil général de la Creuse, pardon, je m'aviez dit que vous l'avez, excusez-moi, au Conseil général, donc je vous laisse deviner où, et qui a mené des projets et qui mène de projets depuis nombreuses années sur l'aide à domicile des personnes âgées et les liens qu'il peut y avoir avec les équipes soignantes. Le docteur Béatrice Fallis-Mira, qui est donc directrice associée de l'ANAP Santé. Romain Chevalier, qui est consultant pour l'ANACT. Alors peut-être je vais vous donner les titres. Hein. Agence nationale, donc l'ANAP, c'est l'Agence nationale d'accompagnement de la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Et puis Romain Chevalier, donc consultant ANACT, c'est l'Agence nationale d'accompagnement des conditions de travail, pour l'amélioration des conditions de travail, et donc qui est expert en projet, en e-projet. Et puis Lisette Cazelet, que vous connaissez tous, je suppose, consultant formateur TIC Santé et fondatrice de l'association. Voilà. Donc je vais passer la parole pour commencer à Patrick Olivier, qui va nous présenter, nous mettre en perspective, à l'aide de quelques slides, l'introduction de cette table ronde.
Bien. Bonjour à tous, donc, je suis Patrick Olivier, je suis directeur de la stratégie à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. À titre historique, je me suis occupé au ministère de la Santé du financement des établissements de santé au cours des 5 dernières années. Donc s'il y a des questions sur le financement des hôpitaux, on pourra peut-être échanger là-dessus. Et un petit peu avant, j'ai occupé quelques postes au ministère de l'Industrie dans les technologies de l'information et de la communication. Alors, brièvement, alors je ne sais plus où j'appuie sur le bouton, mais peu importe, les agences régionales de santé, pour les présenter, puisque c'est un nouvel acteur dans le paysage institutionnel, ça contribue de tout le mouvement de réorganisation des services déconcentrés de l'État ou associés. Donc ce n'est pas un service de l'État, c'est une agence, un établissement public qui a repris, alors j'appuie sur le bouton jusqu'à arriver, qui a repris des missions d'acteurs que vous connaissez sûrement plus historiques, que sont les DAS et les DRAS, que sont le groupement régional de santé publique, les agences régionales de l'hospitalisation, les missions régionales de santé, une partie des caisses régionales d'assurance maladie, d'union régionale d'assurance maladie, des services médicaux de l'assurance maladie. Donc ce sont des structures qui en fait fusionnent un certain nombre de compétences historiquement séparées entre plusieurs acteurs, donc qui vont du champ de la médecine de ville, en passant par l'hôpital jusqu'au secteur médico-social et en prenant en compte également des questions de santé publique et de gestion de crise sanitaire et autres problèmes liés à la veille sur les épidémies. Voilà. Donc, grosso modo, France entière, c'est à peu près 9000 personnes et l'Agence régionale d'Île-de-France, c'est 1200-1300 personnes. Donc, c'est un gros acteur, entre guillemets, administratif, qui régule, dont la mission est de réguler le système de santé, et plus que de soins, le système de santé, donc de la prévention jusqu'à l'accompagnement en établissement médico-social pour personnes âgées ou personnes handicapées. Alors, cette présentation rapide étant faite, à quoi, alors ça ne pue pas sur le bouton, mais qu'est-ce que l'agence régionale peut faire dans l'action pour la promotion des technologies de l'information et de la communication au service, je ne vous ferai pas la litanie de tout le monde, et d'une meilleure efficience de tout ce qu'on peut rêver. Alors, chose à dire, c'est le contexte. Alors, je suppose que ça a déjà été dit, mais il faut quand même rappeler quelques petits points sur l'état du secteur qu'on a en face de nous et l'état des acteurs. Déjà, ne prenons que les établissements de santé, qui sont quand même le gros de l'offre de soins. Je rappelle à peu près France entière, une quarantaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires sur des dépenses d'assurance maladie qui sont de l'ordre de 170 milliards d'euros. Donc c'est quand même un gros acteur, puis c'est un acteur qui a des process et dont derrière on pense qu'il y a quand même un marché pour les technologies de l'information. Les établissements, c'est beaucoup une culture administrative et je pense que la culture d'éthique et l'enjeu stratégique des TIC n'est pas encore totalement pénétré les établissements. Ça monte, mais on a en face de nous des décideurs qui n'ont pas le réflexe, en tout cas ne sentent pas complètement tout le potentiel des technologies de l'information. Et donc on est, en ce sens, face à un secteur un peu difficile. Deuxième chose, mais c'est lié à la première, c'est qu'on a une faiblesse de l'investissement. Et tous les plans de relance qui ont été faits depuis 2007 ont beaucoup porté sur l'immobilier, surtout hôpital 2007, moins hôpital 2012, mais on a quand même une faiblesse chronique d'investissement, peut-être liée à l'appréciation stratégique des SI dans le système. On a aussi, mais vous l'avez vu, c'est lié un peu à l'historique de l'agence, un cloisonnement des acteurs, donc on a jusqu'à nouvel ordre beaucoup de fonctionnement en tuyau d'orgue avec le sanitaire, le médico-social, la ville, et peu de passerelles naturelles. On a une relation au temps extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'un projet, ça c'est pas une décision, est prise un jour, la solution n'est pas mise le lendemain, et donc on précipite parfois un peu les process. Je voudrais pas prendre l'exemple du DMP, mais c'est un peu comme ça. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut prendre le temps de poser le process et bien caler le modèle avant de se lancer dans un déploiement et surtout de la communication. Et surtout, mais ça a été dit, je crois, de ce que j'ai capté de la précédente table ronde, des modèles beaucoup basés sur la subvention. C'est-à-dire qu'on initie des projets, on fait de l'amorçage, mais on bute tout de suite après sur le modèle économique, le modèle de financement, le fonctionnement en routine, le financement du fonctionnement en routine de ces projets. Donc c'est ça, on a beaucoup d'initiatives, de belles choses, mais derrière, il manque la deuxième étape, qui est la pérennisation des modèles. Et comme partout, mais peut-être plus vrai au niveau de la santé, une multiplicité des acteurs, tant au niveau national qu'au niveau régional. Régional, ça s'est un peu résolu, mais au niveau national, il reste encore pas mal d'acteurs fort compétents, mais nombreux, avec qui on doit traiter au niveau régional. Alors, un diagnostic très rapide, hein, pas très positif, hein, c'est plutôt un sous-équipement du secteur comparé à d'autres secteurs industriels ou comparables, de secteurs de santé comparables dans d'autres pays. Je l'ai dit, c'est un peu le corollaire de l'initiative, du mode de financement beaucoup d'initiatives qui ne sont pas forcément intégrées et qui jusqu'à présent étaient plutôt hors d'un cadre normatif. Je ne sais pas si vous avez parlé de normes jusqu'à présent, mais dans certains cas on souffre un peu d'absence de normes et donc une possibilité d'interopérabilité. Le DMP, le rôle et l'action de l'ASI va contribuer à améliorer tout ça, mais ça ne suffira certainement pas. Il y a peut-être des normalisations volontaires à provoquer pour permettre que les systèmes échangent plus facilement. Comme beaucoup, on parle beaucoup d'outils. Avant, on parle beaucoup de l'outil d'abord et après du service. On ne met pas le service, l'analyse du service de l'usage avant la conception de l'outil. Donc ça aussi une déficience, difficulté à parler usage avant de parler outils. Bon, les modèles économiques, je ne reviens pas dessus. Il y a un gros sujet, je ne sais pas si l'orateur l'a dit précédemment, mais le financement essentiel du domaine de la santé, il faut le rappeler, c'est l'assurance maladie. L'hôpital est financé à 93% par des fonds d'assurance maladie. Les prestations sont réglementées, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de possibilité de créer un produit avec un prix spécifique. Et donc, il faut que l'argent, principalement de l'assurance maladie, arrive jusqu'aux industriels. Et aujourd'hui, les règles de financement sont un gros frein au développement de services parce qu'elles ne sont pas adaptées. Elles sont sur des modes d'organisation qui ne sont pas les modes d'organisation que prône l'éthique. On est très dépendant de l'acteur, dépendant du type de prestation. Et donc, dès qu'on essaye de découper une prestation en tranches et de faire en sorte que ça soit réparti entre plusieurs acteurs grâce aux technologies de l'information, on bute sur quel est le tarif auquel l'assurance maladie doit payer. Donc, la notion de technologiquement neutre ou de prestation technologiquement neutre n'existe pas vraiment et le tarif non plus n'est pas conçu comme ça. Alors, brièvement, ça c'était le contexte.
Peut-être,
qu'est-ce qu'on fait en termes d'action régionale? Donc, on est passé par toutes les phases ces 20 dernières années, du dirigisme total jusqu'à l'initiative débridée des années 90 où toutes les initiatives étaient, étaient les bienvenus. On essaye petit à petit d'aller vers des organisations régionales où la puissance publique, en l'occurrence l'ARS, organise les choses. Donc on a, en région Île-de-France, dès 2006, mis un schéma régional donc qui spécifie un peu les systèmes d'information régionaux qu'on veut se voir développer pour le parcours de santé, pour la veille et l'alerte, pour la gestion des urgences, etc. Donc ça, c'est un premier cadre dans lequel on a fait émerger quelques projets dont vous avez peut-être entendu parler, du genre Région sans film, donc permettre que des établissements mutualisent leurs services d'imagerie avec des PACS mutualisés. Ça, c'est l'action régionale, soutenue bien sûr, comme je l'ai dit, par de la subvention, donc encourager en contrepartie de la subvention, faire en sorte que les projets se développent dans un certain ordre. Nous avons deux axes pour l'avenir, deux axes principaux. Le premier, c'est le programme télémédecine. J'en parle brièvement, mais vous savez qu'il n'y aura pas de télémédecine en dehors du cadre du programme régional défini par l'agence régionale qui fixera les règles et les conditions de développement de la télémédecine. Il y aura forcément un côté médical et un côté organisationnel. Il y aura certainement des prescriptions données sur le mode d'organisation de la télémédecine, des acteurs, les modèles de financement, les exigences qu'on fait porter sur les acteurs tiers, donc au-delà des acteurs de santé, les industriels qu'il y a derrière. Et un deuxième gros projet en soi pour aider à la conduite du changement, c'est la mise en place des espaces numériques régionaux de santé. Donc brièvement, c'est essayer de mettre en place en région des fonctions qui aident au développement des technologies de l'information, des fonctions de portage de projets, professionnaliser le portage de projets via des groupements de coopération sanitaire par exemple, bien spécifier la gouvernance, la sélection des projets qu'on veut soutenir. Avoir aussi un rôle d'incubateur. On a finalement un peu de visibilité sur l'offre, les idées qui émergent et on ne sait pas les trier ni les accompagner. Donc cette idée d'incubateur et d'accompagnement de projets. Et probablement aussi un axe tourné autour de la norme et de la relation avec ce que peut produire la ZIP, de manière à avoir des systèmes en région qui soient cohérents et interopérables. Voilà.
Donc on va continuer là sur le format plus table ronde. Je vais laisser Madame Fallis peut-être se présenter et dire un peu plus loin comment elle accompagne la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Parce que c'est vrai que de plus en plus on voit se rejoindre ces deux mondes hein, avec ces nouvelles technologies, l'apport des nouvelles technologies.
Entre autres, oui. Bonjour, je suis Béatrice Fallis Mérat de l'ANAP. L'ANAP, c'est une agence récente qui est née de la loi HPST, dont le sigle veut dire c'est que l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de sanitaires et médico-sociaux. Donc nous sommes en appui donc de tous ces acteurs terrain, de tous ces établissements, et on travaille énormément avec les ARS pour la mise en place des actions qu'on peut mener. Alors quel type, moi j'ai une responsabilité plus particulièrement autour des technologies de santé, donc la télé. Alors nous sommes plus dans le champ de la télémédecine que dans la télésanté ou de la e-santé. Alors je vais essayer un peu de décliner quel type d'action on peut mener et comment ça peut se décliner par rapport aux problématiques que Patrick Olivier a bien décrites par rapport à la télémédecine et que vous évoquez depuis ce matin. Donc on travaille en appui, c'est-à-dire qu'on a comme mission de faire des outils, de la méthodo, de retour d'expérience, parce qu'énormément de choses se passent sur le terrain et il y a énormément d'intérêts à potentialiser, et du suivi, donc des missions vraiment de suivi physique auprès de l'établissement sur les différentes thématiques de la performance. Donc là, c'est assez vaste, parce que ça va des ressources humaines à la gestion du patrimoine immobilier en passant par les nouvelles technologies. Donc dans ce cadre-là, la télémédecine, si on peut dire, vient s'inscrire, puisque pour appuyer la performance, très clairement, on doit réfléchir aux organisations performantes. Et dès qu'on parle d'organisation, on parle de système d'information. Et dès qu'on commence à casser les portes de l'hôpital et qu'on mélange médico-social et sanitaire, on pense très facilement à la télémédecine. Donc on est face aux mêmes problématiques que toutes celles qui viennent d'être citées. D'abord, quel financement, quel modèle économique peut être mis en place pour que les systèmes soient pérennes et qu'on ne soit plus sur des effets d'aubaine, ce qu'on voit comme assez souvent, enfin on suit entre autres, on a évoqué tout à l'heure des établissements qui ont été financés dans le cadre d'Hôpital 2012, qui ont parfois coopéré ou se sont mutualisés essentiellement sur des effets d'aubaine sans qu'il y ait réellement derrière de finalité de coopération. Et donc au bout d'un an ou deux, on se trouve face à des difficultés d'existence fortes. Donc premier élément, c'est effectivement de, de créer les, enfin, comment dire, le fondamental et le pourquoi de la coopération. Donc c'est un de nos points de base. Donc ensuite, je perds un peu mon fil. donc les modèles financiers, les modèles d'organisation. Donc ce qui aussi apparaît. Donc je ne sais pas si ça a été dit. Maintenant, la télémédecine donc ne peut se faire que dans le cadre de l'ARS et avec l'ARS et à travers des contractualisations et des conventions entre acteurs qui vont complètement encadrer la télémédecine. Donc au type d'actions qu'on peut mener et qui sont importantes pour la mise en place de ces éléments, on crée des guides de coopération. Ça veut dire quoi de créer une CHT? Ça veut dire quoi de créer un GCS? Ça va impliquer quel élément financier, de responsabilité, juridique, sachant que ça devient des cadres absolument incontournables pour l'exercice de ce type de pratique et qu'on doit effectivement les mettre en place. Et ensuite, c'est vraiment la composante organisationnelle, et là on touche aux pratiques des personnes, on a une composante ressources humaines, donc on est directement impliqué. Donc il y a la pratique du métier et la façon dont on est rémunéré pour pouvoir exercer ce métier dans cette nouvelle pratique, qui sont des éléments fondamentaux et qu'on peut accompagner par rapport à la télémédecine. On voit très bien, si on suit, on en parlait tout à l'heure, un télésuivi de cardiaque après une hospitalisation, on met une machine chez la personne pour éviter une réhospitalisation. Si on est vraiment stricto sensu, on réfléchit à comment est-ce qu'on... Aujourd'hui, c'est du financement MIGAC, donc on va dire un peu effet d'aubaine. Si on ne réfléchit pas à comment est-ce qu'on pérennise et comment on rend le système intéressant pour tout le monde, on peut se poser la question de que gagne un médecin généraliste qui aura moins de consultations ou que gagne l'hôpital qui n'aura plus le patient qui reviendra pour avoir une T2A qui va être effective. Donc on est dans un modèle où il faut vraiment repenser tous ces éléments-là pour pouvoir le rendre pérenne et pouvoir le faire vivre de façon au-delà des subventions par à-coup.
Voilà, donc déjà au travers de ces interventions, ces deux interventions, on voit bien quelles sont les clés qu'il peut y avoir dans le changement, avec les notions économiques, les attention aux effets d'aubaine, inscrire un projet plus que de travailler sur des effets d'aubaine, et puis les pratiques, les compétences des professionnels. Comment est-ce qu'ils sont impliqués dans le projet? On verra que ce sont des points clés du management du changement. Voilà, je vais passer la parole à M. Abrias.
Merci. Donc, je suis Michel Abrias. Je me sens assez concerné à plusieurs titres, car j'ai un tout petit peu vagabondé dans ma pratique médicale. J'ai été pendant plus de 20 ans généraliste, première photo, dans la Creuse, comme l'a dit mon excellent confrère, le docteur Lucas, c'est-à-dire dans la ruralité profonde, mais ce qui veut dire aussi, surtout, un médecin de campagne isolé, surtout quand je me suis installé en 1970, et que ces médecins-là sont en train de venir des denrées rares, maintenant, en plus. Alors, puis, pendant 15 ans, deuxième diapo, j'ai été praticien hospitalier. Non, c'était le précédent. Alors, le c'est bon. Praticien hospitalier, chef d'un service gériatrique dans un hôpital de proximité, alors avec tout ce qu'on peut imaginer, de médecine gériatrique, EHPAD, de long séjour, unité Alzheimer, etc. Ce qui est intéressant parce que c'est un observatoire des besoins, aussi bien dans un établissement qu'à domicile, parce que j'avais en charge une coordination médicale de proximité. Et enfin, ma troisième fonction, c'était depuis 5 ans, gériatre de conseil au Conseil général de la Creuse et à la direction des personnes en perte d'autonomie. Alors, ça veut dire que ces trois situations concernent des facettes très différentes, mais complètement complémentaires, je crois, des thèmes de cette table ronde. Et je voudrais à cette occasion vous faire part donc de mon expérience. Et je vais vous en parler. Je vais le faire chronologiquement. En 1995, donc, je suis entré dans le public pour fonder une coordination gérontologique au centre hospitalier de Bourganeuf, ce qui était très nouveau à l'époque, hein, ça n'existait pas en 95. Et nous avions décidé de la positionner au carrefour, donc vous voyez sur cette marguerite, la coordination jaune au milieu des établissements, mais aussi au sommet de la tige avec d'un côté le médical, de l'autre le médico-social, le tout localisé sur un bassin de vie. Hein, le bassin de vie qui fait à peu près 15 000 habitants hein, pour ça. Alors pourquoi positionner cette coordination à l'hôpital? Parce que c'est pas très facile à monter. On a pris le parti de suivre les patients chaque fois qu'ils sortaient de nos services et de ne plus les lâcher. C'est-à-dire qu'on a assuré le suivi avec les confrères, on a essayé de coordonner les soins médicaux et de se rendre d'une certaine façon indispensable entre les soignants, entre les médico-sociaux, entre les familles, et s'il y avait un problème, ben de nous faire signe. C'est-à-dire qu'on est petit à petit devenu une sorte de structure d'ingénierie de proximité. Et nous avons dû, du reste, apprendre ce nouveau métier pour lequel nos études ne nous avaient vraiment pas formés. Et c'est un métier qui comporte beaucoup de stratégies de communication, vous vous en doutez. Et je suis du reste, on peut passer à la diapo suivante, intimement convaincu que pour coordonner les divers intervenants, qui sont de cultures différentes, de structures spécifiques, il faut vraiment une structure d'ingénierie tout à fait à part, tout à fait spéciale, et que ces quatre ressources auxquelles on a affaire, qui est la ressource médicale, la ressource sociale, la ressource médico-sociale et la ressource organisationnelle, sont absolument indispensables et requièrent des compétences très différentes. Dans ces domaines, si le factotum a existé pendant longtemps, je crois qu'il est mort, il n'a plus sa place pour ça. Et c'est encore plus vrai si l'on ajoute des tics au système. Parce que si on veut coordonner tous ces gens-là en temps réel, ça devient difficile si on n'a pas la technique. Alors au Conseil Général, je suis rentré, du reste au Conseil Général pour ça, je crois, pour essayer d'étendre au niveau de département ce qu'on faisait au niveau de Bourganeuf. Nous avons expérimenté des packs domotiques à domicile en 2007. Il y avait des packs sécurité, des packs confort, des packs communication et un mix des trois. Alors on rêvait bien sûr de sécuriser les usagers, de coordonner les intervenants du soin, du médico-social, et puis d'aller vers un vrai suivi global, quantitatif, hein, la télégestion, d'accord, mais surtout qualitatif, parce que l'effectivité au sens large, on n'en a pas une vision très précise. On ne sait pas du tout de la façon dont les divers plans d'aide prescrits sont réellement effectués à domicile. On n'en sait rien. Ou pas grand-chose, on a du déclaratif point, là-dessus. Alors pour cela, on a mis en place, en 2007, du même coup, un stylo communicant qui permettait, par l'intermédiaire d'un papier numérisé, d'adresser immédiatement des constats. Les gens avaient le plan d'aide. Dès qu'il y avait une modification, ça demandait une évaluation et on réactualisait presque en temps réel. Ça faisait intervenir les médecins, les soins à domicile, les infirmières libérales et les auxiliaires de vie sociale. On a dû informer tout le monde. Former les intervenants, ce qui nous a donné une première approche sur l'acceptation et l'appropriation de ce genre d'outils par les usagers, leurs proches, les professionnels de santé, et c'est pas très simple. Voilà. Mais cet outil pratique, je sais pas si... Voilà, c'est ça. Cet outil pratique était un peu limité, et nous sommes en train d'expérimenter, un petit peu dans la douleur, parce que c'est pas simple, un outil plus performant qui passe par un écran tactile et Internet. Nous avons imaginé un logiciel beaucoup plus ouvert, capable de servir à beaucoup plus de choses. Parce qu'il est vrai que réunir des soignants, on peut passer la diapo suivante, hein, si vous le voulez. Voilà. Réunir des soignants et des médico-sociaux, c'est pas immédiatement gagné, même si c'est dans les attributions de mon collègue de droite, hein, de l'ARS. Alors pourquoi pas? Aussi avons-nous persisté et signé sur un modèle d'organisation départementale calqué sur celui de Bourganeuf, c'est-à-dire la réunion d'une équipe mobile de coordination hospitalière associé très étroitement avec une structure médico-sociale. Nous avons pour cela réorienté les missions des CLIC vers le suivi des plans d'aide, leur mise à jour très rapide, instantanée si possible, les demandes de réévaluation autant que de besoin, c'est-à-dire que les informations transitent par eux qui deviennent la structure d'ingénierie dont je vous parlais tout à l'heure. Mais si la réflexion est bien avancée, mettre en place ce système à une échelle importante n'est pas forcément chose très simple. Parce que les packs communication, sécurité, confort, ce que je vous disais tout à l'heure, qui groupe, ça coupe le gaz s'il y a une fuite, ça régule la chaleur, ça repère les fumées, il y a un chemin lumineux qui s'allume la nuit, etc. On le déploie actuellement à grande échelle, puisque en 3 ans, on doit faire 3000 foyers. Il nous manque une donnée, c'est l'écran communicant. Et on piétine un petit peu, puisque c'est pour ça qu'on l'expérimente avant. Alors ce qui est... C'est pas simple parce que ne serait-ce que l'outil lui-même n'est pas simple. Est-ce qu'il faut une live box avec tous les inconvénients que ça a, hein, pour l'installer, ça saute quand la personne se fait hospitaliser un mois après, qu'est-ce qu'on fait de la live box, etc. Est-ce qu'il faut une tablette tactile, est-ce que ça doit passer par la télévision, ou alors sur le logiciel qui va bien, vous pensez bien qu'on y a quand même sérieusement travaillé, ou encore sur la motivation des usagers et des utilisateurs et la plus-value qu'ils en retirent. Cela va de pair avec une évolution des métiers, c'est évident. Et nous avons eu, au cours de toutes nos discussions avec les professionnels du secteur, pas mal de revendications et des inquiétudes. Et ce n'est pas illégitime sur la responsabilité, sur la rémunération, sur le flicage, etc., etc. Mais partant du principe que qui ne fait rien n'a rien, nous avons inscrit cette évolution dans le schéma départemental en faveur des personnes en perte d'autonomie 2010-2015. Et nous commençons à travailler, à réfléchir à une articulation entre cette structure d'ingénierie, donc les clics revus et corrigés, la téléassistance et le centre 15. Comment peuvent-ils être complémentaires? Voilà, j'ai essayé d'être très bref.
Très bien, très bien. Il y a différents éléments. On dit souvent que la technologie pousse, hein, on parle de push, va pousser le projet, et que finalement elle vient un peu trop tôt et que le projet n'est pas forcément là. Là, je trouve que c'est un bon exemple de démarche inverse où finalement, c'est un projet qui a été mis en place et où il est presque demandeur, vous êtes demandeur de technologies plus avancées pour faciliter le travail. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette version push-pull. Hein. Il y a d'un côté, effectivement, on peut voir, mais c'est pas mal aussi que la technologie nous pousse. De l'autre côté, il y a des volontés d'acteurs qui se mettent en place. Et puis, au travers de ces différents éléments, on remarque que la question de l'organisation est posée et travaillée et sollicitée et une réorganisation a eu lieu. Il y a une question de compétences des professionnels, il y a une question donc de technologie, il y a une question économique qui n'a pas été abordée là, mais qu'on abordera certainement tout à l'heure. Oui, mais on le verra à la suite. On va laisser parler sur Romain Chevalet.
Donc Romain Chevalet, je travaille donc à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc à la fois sur les conditions de travail, comme son nom l'indique, mais aussi sur la performance. Les deux sont liés. Donc nous, c'est une agence, donc c'est un établissement public administratif qui a été créé en 1973. Moi, je m'occupe de tout ce qui touche à la conception des systèmes de travail. Lorsqu'on le reconçoit un bâtiment, des process industriels, une organisation, que l'on modifie le système d'information ou qu'on implante des nouvelles technologies, comment prendre en compte le travail et le travail réel dans ces projets. Sur ces questions-là, donc notamment ce qui est traduit par un certain nombre de publications d'ouvrages, notamment sur la conduite des e-projets, sur les méthodes et les démarches d'analyse de l'usage des systèmes d'information, en partenariat avec le CIGREF, et puis également un guide assez synthétique d'une quarantaine de pages que vous trouvez en téléchargement sur le site, avec les différentes étapes d'un projet informatique et comment prendre en compte justement le travail et conduire ces projets dans cet esprit-là. Donc moi, j'interviens en entreprise également. Donc je suis à la fois notre mission. C'est d'être un petit peu un relais, une interface entre le monde de la recherche, du conseil et l'entreprise pour produire des outils, des démarches pratico-pratiques que l'on teste, que l'on expérimente en entreprise par le biais d'interventions et que l'on met ensuite à disposition des acteurs, notamment aussi des partenaires sociaux. Voilà. Sur notre sujet, je me présente simplement ou je rentre dans les éléments de pratique ou pratique.
Peut-être insister un petit peu sur la spécificité. Vous êtes expert en e-projet. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au e-projet par rapport à ces conditions de travail, aux compétences qu'il y a derrière, à la réorganisation en termes d'acteurs?
L'un des points des projets systèmes d'information, mais c'est vrai aussi des autres projets, c'est la représentation, c'est que ce sont des projets techniques. Et souvent, on les conduit comme des projets techniques, alors qu'il s'agit, de notre point de vue en tout cas, et je pense d'un certain nombre d'acteurs aussi qui ont mis les mains dans ces projets-là, ce sont des projets d'organisation également, qui sont effectivement des parts animées d'une volonté stratégique, mais se pose dès la question des études d'opportunité sur ces projets-là, qu'est-ce qu'on modifie et pourquoi faire? Et parce qu'au bout du compte, il y a des utilisateurs avec un usage et des pratiques professionnelles qui vont être transformées. Une des spécificités de ces projets-là aussi, c'est qu'on a une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre également, comme dans la plupart des projets d'investissement. Mais on a aussi un certain nombre d'acteurs sur des technologies qui sont pas toujours stables, ce qui fait effectivement une difficulté supplémentaire pour arriver à anticiper le travail futur probable, le travail futur possible. Donc toute l'intelligence dans ces projets-là, c'est toujours d'arriver effectivement à anticiper les faits et les usages de ces systèmes. Donc parfois, on est sur des technologies qui peuvent être effectivement assez avant-gardistes et dont on ne sait pas effectivement quelles seront exactement la façon dont ils seront utilisés dans l'organisation selon le contexte.
Très bien, merci. Et puis Lisette Cazelet, peut-être nous dire un peu quelles sont les approches que tu as dans ces approches, dans ce changement et par rapport aux TIC, et qu'est-ce que ça, pour toi, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que ça génère comme question
Oui, alors, en termes d'acteurs. Je pense qu'on l'a abordé plusieurs fois au cours de ces deux journées. Hein. On se rend bien compte, effectivement, que l'introduction de ces technologies, ces projets qui sont quand même relativement importants, que ce soit des projets initiés par la région, que ce soit des projets à l'initiative d'établissements, voire à l'initiative des acteurs, on a affaire très souvent au départ à des pionniers qui, en fait, ont construit des choses en marchant et ont développé des compétences en marchant. Mais aujourd'hui, le déploiement de ces systèmes d'information et de ces technologies, elles sont au rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un problème, les technologies sont développées, les industriels sont prêts et ont beaucoup de choses à offrir, sauf que ça va moins vite du côté des humains, parce que les organisations, souvent, elles sont construites, surtout les organisations hospitalières, qui sont des organisations un peu lourdes au niveau... Donc, en fait, les technologies vont plus vite dans l'évolution que les humains. Et on observe, en fait, sur le terrain, que très souvent, les projets technologiques sont un peu imposés. Beaucoup de sentiments, en tous les cas, pour écouter très souvent le personnel, on pourrait dire soignant, en gros, ces projets sont quelquefois vécus comme des projets imposés. Quelque chose, effectivement, qui apparaît, c'est que ces projets sont vécus aussi comme une contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on leur impose un système qui va changer les organisations. Très souvent, dans ce qui est proposé pour accompagner l'introduction de ces outils, ce sont des formations, je dirais, aux outils. C'est-à-dire on explique comment on se sert de l'outil. Sauf que ces outils, dans leur conception, ils ne sont pas toujours tenus compte des usages antérieurs. Alors, ça commence, je ne veux pas être négative dans la vision que j'ai des choses, mais on se rend bien compte que quelquefois, la contrainte du constructeur ou de celui qui a fabriqué le logiciel n'a pas toujours intégré le processus. Alors, bien sûr, et je sais que les professionnels ont quelquefois du mal à décrire leur processus, ce qui fait que les industriels ont du mal à intégrer le processus dans la construction des logiciels. Donc, on se mord un petit peu la queue, mais en tous les cas, voilà, il me semble que le premier message que j'aurais à dire, c'est qu'il y a nécessité, effectivement, de prendre en compte les usages pour pouvoir travailler sur des projets. C'est-à-dire, si on veut travailler déjà bien travailler sur les processus ou aider les gens à formaliser leur processus pour savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les processus de travail. Et ensuite, lorsqu'on a à leur proposer des technologies, les accompagner dans les changements que ces technologies vont imposer au niveau des usages. Voilà, moi, il me semble qu'il y a ces éléments-là importants. Et puis, le deuxième élément qui me paraît important peut-être à considérer aujourd'hui, c'est qu'il y a nécessité, bien sûr, de développer de nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'au niveau des DSI, il y a des nouveaux métiers. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes DSI s'étoffent de gens qui sont recrutés, alors pour certains, avec des diplômes TIC Santé, mais il n'y en a pas beaucoup encore sur le marché. La plupart arrivent d'autres secteurs, de l'industrie ou d'autres secteurs, et connaissent très mal le secteur de la santé et les professionnels de santé. Et quelquefois, ils pensent que ça fonctionne comme les autres systèmes. Non, un système de santé, c'est plus complexe. Donc, je crois qu'il faut que les professionnels qui sont férus de technologie et de systèmes d'information comprennent mieux comment fonctionnent les organisations de santé. Et puis, il faut surtout aussi que les professionnels de santé intègrent aussi peut-être notre logique et que les référentiels de compétences qui, aujourd'hui, ont besoin d'évoluer pour intégrer une des composantes que je considère transversale, qui est une composante aux usages et TIC. Donc il me semble qu'il y a ces deux mouvements qui doivent se développer et que les formations doivent tenir compte de ces contextes.
Voilà, et puis effectivement que tout ça mène peut-être effectivement à un référentiel compétences par rapport à ces éléments-là. Moi je dirais une chose par rapport à ça, c'est aussi que c'est vrai qu'on peut leur poser la question des usages aux usagers, aux professionnels de santé et aux malades et dans les acteurs médico-sociaux. En même temps, comme la technologie va modifier les usages, on se retrouve aussi à avoir à construire de nouveaux usages. Et c'est aussi la difficulté, c'est une roue qui doit constamment se reconstruire, d'où effectivement de nouveaux modèles aussi de développement. Et on l'a vu un peu avec les Living Labs de tout à l'heure, correspondent un peu à cette problématique-là et changent la méthodologie, en fait, au sens large.
Alors, je vais juste peut-être pour aller dans votre sens, donner deux, trois exemples très pratiques.
Voilà, très bien. C'est
puisqu'on parle de nouvelle organisation, il y a un domaine où relativement la technologie est à peu près maîtrisée, c'est l'imagerie. On a quelque chose qui interopère, on a des gens qui savent échanger des images pour peu qu'il y ait les lignes qui collent. Or, on a une problématique dans énormément de régions de ne plus avoir de radiologues. Donc, en fait, se pose la problématique de comment est-ce que je peux interpréter mes images quand je suis à un centre d'imagerie, à un hôpital. Et donc, je peux contractualiser avec un site distant ou avec un industriel, parce qu'il commence à y avoir une offre industrielle de téléradiologie, ce qu'on appelle la téléconsultation, c'est-à-dire que je demande l'interprétation à distance. Et finalement, les questions qui se posent, alors là, on va un petit peu au-delà, parce que la technologie est quasiment là et les gens savent à peu près l'utiliser. Mais en gros, il faut arriver à décliner complètement toute l'organisation, c'est-à-dire je demande une radiologie qui la valide. Normalement, c'est le radiologue, j'en ai plus. Quel est le protocole que je vais mettre en place pour faire mon image? Puisque j'ai qu'un manipulateur dont on espère qu'il est formé au scanner, mais est-ce qu'il a les moyens de le faire? Donc, il faut écrire tout ça. Ensuite, je vais avoir un échange avec quelqu'un qui va interpréter mon image. Alors, comment il va être rémunéré et comment l'établissement est aussi rémunéré pour l'acte qui est réalisé? Quelle va être la co-responsabilité de l'acte qui est porté? Par qui? Comment? Comment on interagit éventuellement si l'image n'est pas tout à fait bonne, qu'il faut en recommencer une, etc. Et comment on suit si jamais, par exemple, il y a un choc cardiaque pendant le... Donc, en fait, il y a toute une définition d'organisation qui va très au-delà de la technologie. Donc, et il faut bien aller... Et aussi, comment est-ce qu'on vérifie derrière que, parce que maintenant, il y a une interprétation, je n'ai pas une inflation d'actes au-delà de ce qui aurait pu être normalement demandé. Et donc, on voit bien qu'on est obligé de se poser tout un ensemble de questions organisationnelles, juridiques, financières, maîtrise de l'ensemble, analyse aussi de l'activité, qui est clairement liée à la pratique telle qu'elle est mise en place avec la téléradiologie.
Voilà, et du coup, avec une démarche qui est très, qui ne peut pas être solitaire, j'aimais bien le petit dessin de tournesol là, avec le lit qui tombe sur la tête des Dupont, c'est un peu ça, hein, le modèle du tournesol qui invente tout comme ça, ça marche pas comme ça.
Non,
il faut vraiment avoir une action.
Il faut essayer d'aller au bout, quoi, en fait.
Et se poser la question de la stratégie des acteurs, des financements, etc., enfin, de tous ces éléments-là en même temps.
Et voilà, et comment ça continue au-delà de l'expérience?
Oui, monsieur Olivier.
Oui, sur cet exemple qui est un exemple très pratique, parce que la technologie est là, pour illustrer la question du modèle économique et du modèle de financement. La téléradiologie, donc c'est assez simple, on prend une image d'un côté, on fait interpréter de l'autre bout, et entre les deux, il y a un opérateur technique. Oublions l'opérateur technique 30 secondes, regardons simplement les acteurs. Vous prenez un cas d'école, une clinique qui demande une interprétation, un radiologue dans le public. Donc je rappelle une clinique, l'assurance maladie finance la clinique, donc le support technique, et finance par ailleurs, lorsqu'il intervient, le médecin libéral en clinique, mais à titre individuel. Lorsqu'une clinique fait un acte d'imagerie qu'elle envoie l'interprétation à un hôpital, elle ne perçoit aucune rémunération pour l'aide intellectuelle d'interprétation. Par contre, l'hôpital, lui, qui est dans un autre mode de financement groupé, avec un financement global qui intègre à la fois la prise en charge et l'atteinte intellectuelle, lui a la rémunération. Mais donc, lui, il va envoyer une facture à la clinique, mais la clinique n'aura jamais reçu de rémunération pour compenser l'interprétation technique. Donc ça, c'est un exemple de frein économique, puisque...
Si, juste pour reprendre, ça veut dire que la clinique, elle a fait l'acte avec le scanner,
elle a fait
par
l'acte.
Exemple.
Elle est payée pour l'acte physique. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande une prestation d'intellectuel à l'hôpital, et rien, à aucun moment, elle n'est rémunérée par le système pour ça. Par contre, l'hôpital, lui, qui fait l'acte par convention, va demander à la clinique d'être payée pour l'acte. Mais on est hors système, là on est en relation contractuelle entre deux opérateurs, on est hors système de rémunération de la prise en charge. Le seul argent qui arrive dans le système pour payer la prise en charge, c'est l'argent qui arrive sur la clinique pour payer simplement la prise de l'imagerie. Voilà. Je caricature parce que c'est pas exactement ça, mais c'est le principe. Donc, un des leviers pourrait être que la clinique soit autorisée à facturer également, comme si elle était un médecin libéral, l'acte à l'assurance maladie. Ça se fait dans certains cas, mais c'est des négociations avec l'assurance maladie pour que l'assurance maladie reconnaisse en fait la clinique comme étant un acteur de santé libéral. C'est un exemple sur un cas simple qui est la radiologie où il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans la chaîne. Et deuxième chose, c'est que la plupart du cas, dans ce cas-là, on a une infrastructure qui peut être gérée par un établissement. Si on souhaite externaliser toute ou partie de la gestion de cette infrastructure, par exemple avoir, ce que je citais tout à l'heure, une gestion des images et de PAX décentralisés, là, on a un tiers acteur qui rentre dans le système et il faut prévoir la rémunération de cet acteur pour que ça fonctionne. Donc là, on peut passer sur un abonnement des acteurs de santé à un service, c'est un cas simple. Bon, là aussi, il faut que ces acteurs-là perçoivent la rémunération via l'assurance maladie ou le patient qui leur permet de payer ce service. Et c'est pas toujours le cas. Et bien sûr, il y a tous les aspects encadrement de la pratique, pratique médicale, sécurité de la pratique. On parlera aussi de sécurité des données, puisque dans tout ça, il y a des flux et des échanges de données. Donc il faut que tous les systèmes garantissent à la fois la sécurité de la pratique et la sécurité de la donnée. Voilà. Et on est sur un cas simple qui est la radiologie.
Très bien. Docteur Abrias.
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la formation. Lorsqu'on a fait l'expérimentation domotique en Creuse en 2007, on s'est rendu compte que les industriels de très grosses maisons n'avaient jamais vu leurs usagers. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont découvert ce que c'était qu'un vieux, comment ça marchait. Alors on s'est dit, il faut peut-être qu'on modifie un petit peu ça. C'est caricatural, mais c'est un peu vrai. Hein, pas complètement. Alors, du coup, a été créée à Guéret une licence professionnelle domotique et autonomie qui est ouverte aux techniciens, qui après le bac, qui est ouverte aussi à des gens issus du secteur social, de l'IESF, des deux côtés, de façon à dire comment on fonctionne avec ces personnes, comment on installe les choses, comment on les présente, comment ils se l'approprient, quelles sont les contraintes les plus fréquentes, etc. Et quelles sont les autorités avec lesquelles il faut composer, le conseil général, l'ARS, les caisses, etc. Et on espère qu'en 2012 va ouvrir un master de médico-social et technologie. Voilà, on est dans cette démarche. Et pour parler du modèle économique aussi, depuis que vous en aviez parlé.
Un petit mot sur votre modèle économique en
tout petit peu. Nous, c'est un peu différent en termes de médico-social, c'est-à-dire que on apporte de l'aide à domicile par le biais de l'APA ou de la PCH, la prestation de compensation du handicap. Mais si on réfléchit bien, même les gens les plus lourdement handicapés, les GIR 1, ils ont à tout casser deux heures et demie d'aide humaine par jour. Donc il reste 21 heures, 22 heures avec personne à domicile. Et un instrument quelconque qui nous rassure nous paraît indispensable. Et donc dans le plan d'aide, on a prévu cette évaluation-là. Et on propose à la personne d'inclure dans son plan d'aide des outils domotiques ou technologiques. Et c'est un financement qui est pérenne, qui est prévisible en fonction du nombre d'APA. Et on pouvait dire qu'en 3 ans, on va placer 2400 packs domotiques dans le cadre de l'APA. Voilà.
Bien, merci. Quelques mots, Monsieur Chevalet, sur des projets comme ça, ce que vous auriez monté, avec peut-être mettre en valeur les points forts, les points clés de succès que vous avez identifiés, et puis les freins les plus forts dans le changement.
Alors sur la conduite du changement, souvent, malheureusement, on peut réduire la conduite de changement à deux dimensions. Le fait de bien informer et de bien communiquer sur les changements et mettre en place le plan de formation qui va bien. Ces deux éléments, information, communication et formation, sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants pour conduire le changement. Dans les éléments de réussite que l'on repère vraiment dans tous les cas de projets, que ce soit sur des projets informatiques ou des projets d'évolution d'organisation, le point de succès se joue au départ, c'est dans le fait déjà d'avoir conscience au niveau de ceux qui conçoivent que leur représentation du travail n'est pas le travail réel. Trop souvent, on conçoit une organisation, on conçoit un bâtiment, un espace, on conçoit un système d'information sur la base des représentations que l'on a du travail. On pense que les gens travaillent comme ci, comme ça, parce que les procédures sont comme ci, comme ça. Or, le travail réel est toujours différent. Donc il est important, au début d'un projet, de passer par une étape qui est une étape de diagnostic d'une certaine façon, mais qui permet déjà de repérer, si je décide de mettre en place le dossier patient informatisé, déjà aujourd'hui dans la réalité, quelles sont les contraintes de l'activité des soignants aujourd'hui. Quels sont les aléas? Quels sont les éléments de variabilité dans l'activité de travail? Tous ces éléments-là sont absolument essentiels. Alors c'est vrai, ça a été cité. Il n'est pas toujours facile non plus de faire exprimer des personnes sur leur travail, de verbaliser. D'où l'importance aussi de pouvoir utiliser des méthodes qui sont des méthodes qui permettent d'aider à la verbalisation. Hein. C'est par exemple le fait de passer par un plan, une maquette, ou notamment sur des projets informatiques, de passer par une représentation de l'activité sous forme de logigramme. Et l'important d'être plusieurs autour de ce schéma et de le discuter. Médecins, soignants, personnes en charge de l'informatique, encadrement intermédiaire, et du coup de discuter du travail tel qu'il se fait déjà aujourd'hui et tel qu'il pourrait se faire demain. Donc il est important de passer par ce type de support parce que c'est plus facile de discuter du travail quand on a une représentation sous les yeux, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi des photos de l'activité que l'on commente, que l'on discute. Donc ça, ces éléments, effectivement, qui sont vraiment essentiels dans la réussite d'un projet. Actuellement, donc moi, l'exemple que je vais citer n'est pas dans votre secteur, mais dans le secteur tertiaire, hein, sur un projet informatique qui va concerner 73 000 personnes, donc un très gros projet informatique, refonte totale. Donc la façon d'accompagner la maîtrise d'ouvrage informatique, par exemple, justement, c'est de les accompagner sur le terrain et leur expliquer comment regarder le travail et comment comprendre le travail des futurs utilisateurs du système d'information. Et c'est extrêmement motivant également pour les informaticiens ou pour ces représentants de la maîtrise d'ouvrage. Parce que du coup, ça donne du sens aussi à ce qu'ils vont faire. Ils ne travaillent pas sur la base, effectivement, de vision de représentation sur des procédures ou des mais aussi par rapport à des personnes réelles qui vont utiliser leur système dans des cas de figure bien concrets. Et je pense que dans le secteur hospitalier, c'est particulièrement nécessaire, étant donné les contraintes qui sont les vôtres aujourd'hui. Il y a effectivement des plaintes ou des insatisfactions sur des temps passés en administratif ou en saisie, en traçabilité, qui peuvent être importants. Le fait de ne pas être suffisamment en soins relationnels pour certains. C'est important de partir des situations existantes avant effectivement de changer le travail, parce que le projet informatique, il faut le concevoir comme une opportunité. Alors, on le voit souvent comme une opportunité technologique ou une opportunité économique, mais concevons-le aussi dès le départ comme une opportunité, comme un outil d'aide au travail, comme une technologie ou une nouvelle organisation qui va simplifier des relations entre les personnes. Donc, d'où l'importance de se le dire aussi au départ et d'inscrire dans les projets informatiques en quoi ils sont aussi une opportunité pour améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.
Merci pour ces éléments.
Peut-être juste rajouter quelques éléments aussi de terrain. Je suis absolument convaincue de ce que vous dites et on essaye, nous, à la fois de réfléchir sur les apports d'usage, donc travailler beaucoup sur l'usage et sur ce que ça peut apporter à chaque acteur dans un établissement ou dans un réseau de soins. On a aussi un travail qu'on fait avec un certain nombre d'établissements de dire... Vous avez un portefeuille de projets de systèmes d'information. Vous avez besoin des acteurs métiers justement pour qu'ils décrivent, pour qu'ils participent, qu'ils décrivent les fonctionnements et tout ça. Et on s'est rendu compte que une des causes d'échec en fait des projets, c'est que la sous-évaluation du besoin est très grande. C'est-à-dire que s'il y a besoin de 10 personnes, ils vont évaluer le projet à 2 personnes. Et on s'est rendu compte aussi que par rapport à la disponibilité des équipes, il y a aussi un facteur facile de 1 à 5. Donc il y a une très... Il y a le fait de se dire, on a besoin, c'est nécessaire. Donc ça, on commence à avoir les gens qui s'en rendent bien compte. Par contre, j'ai vraiment évalué ce que ça va impliquer comme charge de travail, parce que c'est pour un soignant, c'est quand même prenant de travailler sur un système d'information. Là, en général, la sous-évaluation est très forte et absolument pas mise en regard des disponibilités des équipes. Et donc finalement, on se trouve en phase d'échec complète du projet, puisque à la fois il peut difficilement se faire et en plus il peut difficilement être adopté par les acteurs.
Et puis il y a certainement, enfin on rencontre ça beaucoup dans les projets, il y a au début une surcharge forte d'apprentissage qui correspond à l'apprentissage et à la mise en route de nouvelles routines, etc. Mais là, bien avant.
Et dans la description des processus, enfin, tout le travail de définition du projet, il y a effectivement le moment où on met en place, il faut former, accompagner, mais en amont, il faut décrire les processus, c'est exactement ce que vous dites, décrire comment est-ce qu'on travaille, comment on va travailler avec le système, ça veut dire quoi. Et donc là, ça doit être porté par des professionnels de santé. Et en général, ce n'est pas comptabilisé ou peu comptabilisé dans les ressources nécessaires au projet.
Et alors, dans la santé, c'est particulièrement vrai parce que justement, cette représentation du travail de l'autre, elle est d'autant plus marquante que les mondes jusqu'à présent étaient relativement séparés. Et on voit un mélange de ce côté-là qui demande une acculturation importante de chacun, de chacune des parties. Mmh. Oui, Isette.
Moi, j'étais frappée, j'ai eu l'occasion de participer à un congrès sur l'identito-vigilance. Je prends cet exemple parce que ça m'avait énormément marqué. Je n'avais pas perçu l'importance du problème que posait l'identito-vigilance. L'identito-vigilance. Voilà. Et donc, c'était à Besançon une journée auquel j'avais le plaisir d'être invitée. Et pendant toute une journée, effectivement, la question des erreurs d'identité a été posée. Et quand on analyse, en fait, le problème d'erreur d'identité, elle est très simple, en fait. L'acteur qui saisit l'identité du patient, eh bien, c'est l'agent qui est au bureau des entrées ou c'est l'infirmière aux urgences qui accueille un patient et qui saisit la première l'identité du patient. Et en fait, quand on regarde effectivement les sources d'erreur, souvent c'est l'erreur, comme on dit, elle est humaine, mais en même temps, on se rend compte que les personnes qui saisissent n'ont pas du tout l'idée de ce qui est de la chaîne ensuite de l'information qu'elles saisissent et de l'impact qu'une erreur faite par tout à fait inattention parce qu'elles sont prises par l'acte à faire après, etc., a comme conséquence. Parce que le problème de la formation souvent qui est faite, alors on va dire à l'informatique en général, parce que là aussi on mélange un peu tout, il me semble qu'il y a la question de la formation au système d'information, comprendre quelle est l'organisation d'un système d'information. Et si je fais une erreur de saisie au moment où je saisis l'identité d'un patient, la chaîne que cette erreur va avoir et toutes les conséquences que ça va avoir tout au long du processus de soins jusqu'à la facturation, etc., je pense que l'agent qui fait l'erreur, il n'a même pas connaissance de tout cela. Et donc, bien sûr, il n'y avait aucun agent ni aucune infirmière présente à ce congrès pour bien comprendre cela. Et on a effectivement élaboré beaucoup de choses autour de cela, sauf qu'on ne s'est pas posé complètement la question de dire comment on va former les infirmières à la saisie de l'information, parce que pour l'infirmière c'est une contrainte souvent, et dans les travaux que j'ai eu l'occasion de faire sur l'approche qu'avaient les soignants des systèmes d'information et de l'informatique, c'est vécu comme un écran, un travail administratif. Donc je crois que s'il n'y a pas une bonne compréhension du système et qu'elle voit le bénéfice qu'elles vont pouvoir avoir, peut-être pas immédiat, mais rapidement, et le bénéfice que va en avoir le patient, je crois que c'est vécu comme une contrainte. Donc il me semble qu'il y a une bonne compréhension dans la formation des personnels de santé à avoir de cette compréhension du système d'information. Et puis, je pense qu'un autre élément aussi, c'est les modèles de formation qui sont utilisés, qui ont besoin aussi d'évoluer. C'est-à-dire qu'on continue à former alors qu'on a des systèmes d'information performants pour former, on continue à faire des formations qui sont plus adaptées à l'usage des systèmes d'information. Et c'est vrai que je suis...
Oui, peut-être que justement, ils sont adaptés juste à l'utilisation, mais pas forcément à l'usage.
Tout à fait. Et je pense qu'il faut former au TIC par les TIC. Et il y a peut-être aussi à inventer de nouveaux modèles de formation. Plus du tout sur le modèle en salle où pendant 3 jours on va être formé à Excel ou à l'usage de tel ou tel logiciel, mais beaucoup plus des outils où on va permettre aux gens de s'auto-former et de travailler sur des situations réelles qui sont à travailler. Et je me sens qu'il faut vraiment faire évoluer aussi les modèles de formation en intégrant l'usage des TIC. Alors, il me semble qu'il y a là beaucoup d'évolutions à encore développer.
Très bien. Et puis, on a vu des outils puissants. J'ai pensé au Serious Game, par exemple, qu'on a vu hier, qui peuvent être des modèles de mise en situation virtuelle, entre guillemets, mais qui sont porteurs.
J'ai une question pour M. Abrias, parce qu'on a parlé de formation de professionnels de santé. Dans les modèles que vous nous présentiez, vous allez au domicile des patients, des personnes âgées et fragiles, et donc vous mettez des technologies nouvelles qui parfois effraient les personnes parce qu'elles ne savent pas très bien à quoi ça peut leur servir, puis je pense qu'elles ont souvent peur d'être en échec. Et quelle est l'approche justement pour former ces utilisateurs, qui est un petit peu différente? On n'est plus dans des professionnels de santé, mais par des personnes âgées.
Alors, il y a plusieurs cas de figure. L'expérimentation initiale qu'on a faite, c'était un petit peu difficile parce que on mettait à domicile des outils communicants ou autres que la personne n'avait pas vraiment désiré, dont on n'avait pas vraiment besoin. Donc c'était compliqué. Quand c'est dans le cadre de l'APA, ça a déjà été fait dans le cadre d'un, dans le cadre de l'évaluation du plan d'aide, et c'est toujours la personne en dernier cours qui accepte ou non son plan d'aide, dont elle a accepté ça. Donc pour mettre en place, on a une délégation de services publics avec la téléassistance qui gère l'installation aussi ou ça, et on a une équipe spécifique au conseil général de 3 personnes qui passent préparer le terrain avant chez la personne. Oui, on a une équipe pour ça, parce que c'est extrêmement important. Ça. Et il y a une façon d'aborder les personnes isolées, en difficulté, âgées, tout à fait particulière. Et parmi les personnes âgées, il y a 36 sortes de personnes âgées. Hein, les personnes âgées, jeunes âgées, dynamiques, ce n'est pas du tout la même chose que des gens très très dépendants de GIR 2 ou GIR 1, c'est très différent.
Merci.
Merci. Peut-être.
Oui. Moi j'ai une question pour la salle.
Oui, on va donner la parole à la salle dans quelques instants.
Après. Mais,
d'accord.
Sur la question des personnes âgées, j'ai vu un exemple récemment. Vous savez, c'est vrai que sur les projets systèmes d'information, on a tout, si on lit la presse et les documents qu'on nous donne, on a toujours l'impression que c'est que des success stories. Pourtant, et c'est vrai, c'est quand même l'impression que ça donne. Hein. Pourtant, il existe quand même un certain nombre de statistiques sur la réussite et les échecs des projets de systèmes d'information. En France, il y en a très peu, il n'y en a pas. Je cours après ces statistiques. Il n'y a rien, pourtant tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'échecs. Alors on a des données qui sont celles des données américaines du Standish Group qui met en évidence qu'on a à peu près 50% de projets mitigés, 30% d'échecs et à peu près un quart de succès. Et ça c'est sur des échantillons de plus de 1000 projets informatiques. Hein. Donc ça vous donne quand même un... Bon. Alors, je suis tombé récemment sur un cas, parce qu'on travaille sur les technologies RFID, et donc sur un cas qui concernait une EHPAD et sur un projet qui était mis en avant comme un peu un projet vitrine au niveau des acteurs. Et nous sommes allés faire des observations, des analyses dans cet établissement. On s'est aperçu qu'en fait, ça n'était absolument pas la réalité puisque on avait effectivement il s'agissait notamment de bracelets, enfin la puce était sur des bracelets qui équipaient donc les personnes âgées. L'une des fonctionnalités, c'était notamment le fait que s'approchant des portes, du coup, les portes se fermaient automatiquement, ce qui évitait les fuites de ces personnes âgées. Et les bracelets qui avaient été mis en place étaient des bracelets issus du modèle des bracelets montres du modèle sportif. On n'avait pas pris en compte que le poignet, la main d'une personne âgée, c'est pas le poignet d'un sportif. Donc ça tourne, le bracelet tourne, il tombe, il n'est pas forcément moins évident effectivement à utiliser. Et puis l'autre point, par exemple aussi, c'est que les personnes âgées ont tendance effectivement à se rapprocher des portes de sortie. Donc du coup, ça bloque les portes de sortie et donc les visiteurs extérieurs ne peuvent plus rentrer non plus. Je vous passe les détails, mais il y a 2 fonctionnalités qui étaient aussi prévues sur ce système et qui en fait n'étaient absolument pas utilisées parce que les médecins n'avaient pas été impliqués dans le projet. On était vraiment dans une conduite de projet, comme on les appelle, qui sont avec un effet tunnel, hein, c'est-à-dire qu'on prend on a l'idée, on conçoit, éventuellement on fait une petite expression des besoins et puis ensuite il ne se passe plus rien et on sort la solution, on la teste, on la recette. Mais sur des données techniques. Donc voilà, je crois que c'est aussi important de pas forcément non plus être toujours dans cette faire attention aux vitrines ou autres qu'on peut nous montrer. Ces projets sont pas des projets simples, hein, c'est vrai, et d'où l'importance d'y être vraiment vigilant tout au long. Donc il y a des nouvelles méthodes maintenant de conception qui sont de plus en plus utilisées, qu'on appelle les méthodes agiles. Hein, probablement qu'elles sont déjà en cours d'utilisation dans votre secteur. Mais pareil, ces méthodes agiles ont besoin d'être enrichies du point de vue méthodologique. C'est des méthodes qui permettent effectivement des itérations très rapides avec normalement l'utilisateur. Mais là aussi, il faut les enrichir avec quels utilisateurs. Quand on a un utilisateur externe, effectivement, comme des personnes à domicile, comment on prend en compte les éléments de variabilité selon ces personnes, leur âge, leur activité, le local, l'environnement, la maison. Enfin, c'est tous ces éléments-là aussi qu'il faut intégrer dans le projet.
D'accord, merci. Peut-être un dernier élément là, puis après on va passer effectivement la parole à la salle.
Oui, juste un exemple. Dans la série des échecs réussis, C'est une expérience qu'on a eue qu'on a en Île-de-France. Alors ici, parce qu'on a de l'échec, on essaye de repartir. C'est sur l'informatisation des réseaux de santé. Donc géronto, diabéto, etc. Les réseaux ont besoin d'avoir un dossier patient pour gérer enfin l'ensemble des patients qui suivent et mettre les professionnels en relation. Alors c'est un échec dans le double, à mon sens double échec. Le premier, c'est que l'éditeur qui a répondu est un éditeur trop petit, pas assez mature, qui n'a pas pu pérenniser, aller au bout de la démarche, ou qui n'a pas su être dans l'approche de concevoir un produit qui correspond et derrière l'entretenir. Donc on a ce premier écueil qui est la maturité de l'offre. Et on en a un autre plus structurel qui est le fait que les gens doivent s'entendre sur c'est quoi leur métier, comment ils travaillent et qu'est-ce qu'il leur faut dans le dossier. Et donc l'approche idyllique du process et de pourquoi on est là et quel est notre service, des difficultés à se faire avec des acteurs multiples qui ont une conception très différente de leur façon de pratiquer, même si a priori c'est la même typologie d'activité et qui demandent des formats de recueil très différents. Donc lorsque vous êtes sur une démarche comme très souvent dans le domaine de la santé consensuelle, vous essayez de, en même temps qu'avoir un projet technologique, d'avoir une démarche de mutualisation et de coopération des acteurs. Donc vous laissez la parole forte aux acteurs et vous risquez, parce que vous n'avez pas une gouvernance de cette parole un peu directive, arriver à un produit qui a du mal à se concevoir. Donc ça aussi c'est important. Certes, il faut à un moment donné permettre à chacun de s'exprimer. Mais comme de l'autre côté, la démarche un peu analytique de je suis là pourquoi, quel est mon service, comment je m'organise, n'est pas toujours au rendez-vous, on a aussi un manque d'interlocuteurs pour développer proprement des démarches, développement de services via les technologies de l'information. Voilà, le projet est relancé avec une approche plus directive. On va chercher une solution qui a été mise en œuvre dans une autre région, comme ça on sait qu'elle marche, puisqu'elle marche dans une autre région. Donc l'évidence est là et la solution peut être développée. On va plutôt peut-être aller vers de la formation à ce moment-là, que du développement ad hoc pour la région. Voilà.
Très bien, merci. Et puis c'est vrai que pour boucler avec votre première intervention, c'est sûr que de donner du cadre à tous ces éléments-là, ça aide aussi les gens à être guidés dans leur méthodologie et dans leur projet. Et finalement, ça leur facilite et ça évite un grand nombre de débats au départ qui sont déjà traités par d'autres équipes. Donc on va peut-être interroger un peu la salle. Vous vouliez, Madame Fallis.
C'était une remarque, je ne sais pas, parce qu'on se mettait pas à côté industriel, parce que là, quand on met en place une solution de télémédecine, en tant que médecin, on est responsable normalement on doit s'assurer que l'outil technique mis en place répond aux exigences nécessaires pour que la prestation soit correctement réalisée avec tous les domaines de sécurité, etc. On est face à des solutions techniques, entre guillemets, qui sont des millefeuilles entre de la télécommunication, des outils. Et donc, on va être. Ce que je voulais poser, c'est la question, c'est comment aujourd'hui se gère ou s'adresse la responsabilité du tiers technique, qui est très prégnante en télémédecine, beaucoup moins importante, sauf pour la téléalarme, mais en tout cas, dans la composante sociale, est moins forte. Mais c'est un vrai enjeu qui est encore assez balbutiant, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la solution technique mise en place est à la hauteur des attentes de la prestation médicale qui doit être réalisée.